Madame Marie-Emmanuelle Pomerol, bonjour.
Bonjour.
Vendredi matin, à la surprise générale, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga se sont rencontrés en enterrés la rage de guerre quelques heures avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Nairobi. Est-ce une simple coïncidence?
Alors, effectivement, les Américains ont poussé depuis quelques mois pour ce dialogue, à la fois de manière ouverte et derrière la scène. Mais en même temps, on a l'impression que c'est une volonté de ces deux leaders politiques de discuter et qu'ils l'auraient fait en dehors de ce contexte de la visite du secrétaire d'État américain.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette spectaculaire réconciliation en ce moment?
Il s'agit surtout d'une réconciliation entre deux hommes qui se connaissent bien, qui font partie de grandes dynasties politiques du Kenya, ce qui ne veut pas dire que toutes les tensions sont apaisées, mais elle vient mettre un terme en fait à une situation qui était à la fois tendue et en même temps qui n'avançait plus. Raila Odinga en fait est allé au bout de sa stratégie d'opposition, n'avait plus d'arguments pour s'opposer à l'élection de Kenyatta, et il a donc choisi tempérer et de permettre que le climat politique s'apaise.
Alors, Madame Pomerol, que pensez-vous du document de 8 pages qui a été signé entre les deux frères ennemis?
Il s'agit d'un document qui propose un diagnostic en fait de la situation politique, économique, sociale du Kenya, qui met l'accent sur les problèmes rencontrés par la société kényane, qui insiste beaucoup sur les divisions ethniques, qui selon eux seraient à l'origine des tensions notamment électorales, qui insiste aussi sur la question de la corruption. On n'apprend pas grand-chose sur ce qu'il propose. On va dire que c'est un début pour d'éventuelles négociations politiques ou institutionnelles.
Cet accord a été salué pour sa lucidité. Comment expliquer que ces deux camps qui semblaient irréconciliables soient arrivés à un tel accord?
C'est vrai que tout le monde se demandait jusqu'où allait aller l'opposition dans sa stratégie de refus des résultats de l'élection, ce qui donnait un climat peut-être aussi d'investissement économique un petit peu compliqué. Qui a mené à certaines tensions, à certains pics, comme récemment lorsque Raila Odinga s'est fait introniser président du peuple et que les médias ont été fermés pendant une semaine. Donc effectivement, ça met un terme à cette tension-là, mais ça ouvre aussi une période peut-être de réforme institutionnelle au niveau de la décentralisation, au niveau de la corruption, dont on ne sait pas bien dans quelle direction elle va pour le moment.
Les alliés de Raila Odinga au sein de la NASA ne cachent pas leur déception d'avoir été tenus à l'écart de cette spectaculaire réconciliation. Est-ce que ça veut dire la fin de cette coalition?
Effectivement, ils ont été tenus à l'écart. On dit que Raila Odinga serait allé tout seul à la négociation. Bon, parce que c'est une réconciliation entre deux personnalités, mais aussi parce que ses alliés eux-mêmes n'avaient pas assisté à la cérémonie de fin janvier durant laquelle il avait donc prêté serment en tant que président parallèle. Une forme de revanche en fait de Raila qui est le leader de la coalition, le leader charismatique, le leader historique. Et puis plus on va dire plus structurellement, les alliances politiques au Kenya sont assez fluides. Donc là on avait une alliance assez forte hein, avec 5 leaders principaux donc réunissant des groupes ethniques assez larges, mais ces alliances étaient différentes en 2013, encore différentes en 2007. Donc il y a une forte fluidité qui fait qu'effectivement, dans la perspective des prochaines élections, on peut très bien avoir des alliances qui changent encore.
Alors, l'accord signé prévoit la création d'un bureau qui est chargé de mettre en application le programme de réconciliation qui a été convenu entre les deux hommes. Est-ce que cela pourrait se traduire par l'entrée au gouvernement de Raila et de son camp?
Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être sur la table des négociations. Les postes du cabinet ont été donnés récemment. On n'en est pas encore à un partage du pouvoir, d'autant que le camp de Jubilee, le camp de Kenyatta et de Ruto, ont très clairement gagné, on va dire, en tout cas la majorité parlementaire, la majorité des gouverneurs au niveau des comtés. Donc, ils n'ont pas vraiment intérêt à partager le pouvoir. Ils ont plutôt intérêt, effectivement, à montrer une certaine forme de tolérance envers l'opposition, mais il ne semble pas qu'il y ait une ouverture au niveau du gouvernement.
Mais à ce stade aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la crise électorale au Kenya est terminée?
Oui, on peut dire que cet épisode d'août 2017 à aujourd'hui est terminé. Comme tous les épisodes électoraux au Kenya, il a été tendu, violent et rendu encore plus spectaculaire ou surprenant cette fois du fait de la décision de la Cour suprême d'annuler le premier scrutin. Mais comme tous les épisodes électoraux aussi, il se referme sur une forme de, on va dire, de consensus de surface, parce que au fond, un certain nombre de questions sur le système électoral, sur le système politique, sur la redistribution des ressources, toutes ces questions-là de fond ne sont pas véritablement réglées et ressurgissent au quotidien, évidemment, pour les Kenyans ordinaires, les citoyens kenyans, qui ressurgiront lors des prochains épisodes politiques.
Marie-Emmanuelle Pombrol, merci.
Merci.